On va déguster tous les dimanches sur France Inter à partir de 11h.
On y va pour les deux plats du jour.
Je peux goûter comme ça?
Oui, 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 bien sûr.
The menu, please.
Oh, tu goûtes ça.
Aspettiamo tutti quanti su France Inter e sulla Calabria.
Comment tu définirais la cucina di Calabria?
Piccante.
Quel tipo di prodotti?
Tous les produits. On est dans un village, un petit village où il y a plein de poissons. Vous venez à les marchés, vous pouvez choisir tous les bons produits, les tomates, les aubergines, les carottes et les piments surtout. Et avec l'huile, on fait tous les pâtes possibles, avec les oignons et les tomates. Et on va faire les parmigiana. Mais bon, il faut venir ici pour les goûter. Venite, vi aspettiamo.
Buongiorno a tutti e benvenuti in Calabria. Bonjour à tous, bienvenue. La Calabre a envahi le studio dont on va déguster en ce dimanche. Des saveurs de Méditerranée entre mer et montagne, des recettes pauvres, des parfums de piment, des influences grecques et albanaises. On part en voyage à l'extrême sud de la botte italienne pour découvrir le goût méconnu de la Calabre. Ce voyage est un voyage accompagné. Celle qui nous sert de guide, c'est notre irremplaçable Alessandra Pierini. Buongiorno.
Buongiorno a tutti.
On vous connaît, Alessandra, évidemment. Vous êtes une habituée de l'émission, une experte italienne. Vous traquez le meilleur de la botte pour votre épicerie rap à Paris, Paris 9e. Et je vous ai suivi cet été. J'ai eu cette chance-là en Calabre avec mon micro. Vous allez découvrir, chers auditeurs, nos trouvailles étonnantes tout au long de cette émission et les meilleurs produits de Calabre, je le disais, se sont donné rendez-vous sur le plateau dont on va déguster. On aperçoit des bouteilles de vin, du piment bien rouge, des fromages, de la charcuterie et j'en passe. Il y a même des olives fraîches, incroyable.
Depuis ce matin, oui, c'est l'olive autobratica.
Et qu'est-ce qu'on en fait des olives fraîches, Alessandra?
On peut faire des olives cassées, comme on connaît bien aussi en Provence.
Magnifique.
Donc, il faut s'y mettre rapidement tant qu'elles sont aussi jolies, belles, charnues.
C'est ça, on va se régaler avec vous, avec nous également, en notre compagnie en ce dimanche, notre chroniqueuse Estherelle Payani. Bonjour Estherelle.
Bonjour.
Et vous nous causez charcuterie aujourd'hui?
Une charcuterie de fin de repas, disons-nous.
Ah.
Vous verrez.
Ah, il n'y a pas de porc, pas de cochon dedans.
Un petit peu, enfin, c'est quelque chose d'assez particulier.
Et
vous aurez la surprise.
Ça avec vous. En tout cas, ça ressemble vraiment à un saucisson. Hein.
Ah, ah.
Nous sommes ravis d'accueillir un petit nouveau dans l'émission. En fait, c'est loin d'être un petit nouveau. C'est même, figurez-vous, un chroniqueur historique dont on va déguster. Il nous a accompagnés pendant les 5 premières saisons de l'émission. Il revient dans la bande, on en est très heureux. Il nous parlera régulièrement de vin avec la passion et la curiosité qu'on lui connaît. C'est Dominique Hutin, bonjour.
Bonjour, bonjour à tous.
On est super content de vous accueillir à nouveau dans la bande, Dominique.
Moi donc.
Et vous allez accompagner ce voyage en Calabre en mode liquide.
Oui, on va sculpter l'autre grand pays du vin. Qu'est l'Italie, mais parce qu'elle a de plus humble, de plus authentique même peut-être, on va aller carrément au large des autoroutes du vin pour ausculter une viticulture ancienne et familiale.
Très bien, il y a même une petite bouteille à déguster à la clé. En régie, les doigts sur la console, Laurent Thomas, Kevin Pelot, Nadia Chougui, interagissez dans l'émission depuis l'application de France Inter, sur notre mail, on va déguster à radiofrance.com ou sur Twitter avec le hashtag on va déguster.
Sur France Inter, avec François-Régis Gaudry, on va déguster.
Juste avant de partir en Calabre, je vous propose quelques pages à manger. Vous êtes bibliophage? Le jury de Mange Livre a délibéré. Mange Livre, c'est un prix littéraire qui récompense chaque année un livre de gastronomie qui défend une alimentation saine, bonne pour la santé et respectueuse de l'environnement. J'avais la chance de faire partie cette année du jury de Mange Livre avec des personnalités comme Olivier Rollinger, hein, on le présente plus, le cuisinier corsaire de Cancale, Pascal Barbeau, le chef 3 étoiles de l'Astrance, absolument Estherelle. Ou encore, on la connaît bien sûr, la cuisinière Sonia Esgulian, que vous aimez beaucoup Estherelle.
Qui a son rond de serviette assez souvent.
Exactement.
On va déguster.
Tout à fait, ou la très talentueuse pâtissière Claire Etzler. Nos devoirs de vacances consistaient à s'avaler 8 livres pendant l'été. Et après moult débats, nous avons enfin délibéré. L'ouvrage qui a remporté le grand prix, c'est...
Millefeuille.
Ça aurait pu, mais ce n'est pas celui-ci. À la recherche du pain vivant de Roland Feuillas et Jean-Philippe de Tonnac aux éditions Actes Sud. À la recherche du pain vivant raconte à travers un long entretien la quête à la fois spirituelle, agricole, écologique de Roland Feuillas, qu'on a reçu plusieurs fois, hein, Roland Feuillas, un ancien chef d'entreprise qui décide un jour de tout plaquer pour s'installer avec sa femme Valérie à Cucugnan, un petit village des Corbières. Il relève le défi de faire du pain, mais du pain nature à base de céréales anciennes biologiques. Les farines sont fraîchement moulues, la fermentation se fait au levain naturel, cuisson au feu de bois. Roland Feuillas est aujourd'hui un acteur et une voix qui porte sur la transition écologique et la gastronomie engagée. Voilà, et c'est vraiment un récit bouleversant que je vous invite à lire, et surtout plein d'espoir. À la recherche du pain vivant de Roland Feuillas et Jean-Philippe de Tonnac aux éditions Actes Sud. Et j'en profite pour vous signaler que ce grand prix littéraire de Mange Livre, c'est en fait une émanation de Mange Lille. Vous comprenez le jeu de mots ? Mange Lille étant le super festival gastronomique fondé par Marie-Laure Fréchet et Nicolas Verlust, qui va bientôt embraser la métropole lilloise. Ça se passe du 17 au 23 septembre prochain, avec les chefs qui comptent dans la région, on en connaît quelques-uns, Esterel, on peut citer Nicolas Pourcheresse, Steven Ramon, le chef de Rouge Bar.
Qu'on a reçu ici, il y a aussi Florent Laden, je crois.
Il y a le Florent Laden que vous aimez particulièrement.
Oui, je ne rate pas une occasion d'aller chez Blue Empot dans le centre de Lille, c'est vraiment un super rapport qualité-prix.
Entièrement d'accord avec vous, avec une cuisine champêtre et entièrement locavore. Ismaël Gergenton du restaurant Empreinte qui fait beaucoup parler de lui à Lambersart, pour ne citer qu'eux. Et j'ai retenu un événement parmi tant d'autres, juste un seul. S'il y a un événement où il faut aller à Mange Lille, c'est Disco Frites. Le principe, c'est de transformer la gare Saint-Sauveur en discothèque géante, et ça se passe le jeudi 20 septembre, il y a un bar à frites à volonté. Voilà, on sait que la frite, c'est un des dadas de Marie-Laure Fréchet, qui était d'ailleurs venue nous en parler sur ce plateau.
Et ça donne la patate, tout ça.
Bravo, bravo. Toutes les infos et les inscriptions sur mangelille.com. On se retrouve pour explorer le goût de la Calabre. C'est tout au bout de la botte, juste après un petit air d'Italie choisi par Giubacca.
De Raphaël Gualazzi, et s'intitule Calda Estate.
Calda estate, non si riesce a far più niente che morire sotto il sole, tra le gabole e la gente, e non so più dove andare, ma non voglio questa gente. Dove sei? Dove sei? Dove sei? Dove sei? Mi rinfranco, faccio un bagno dentro il sole, gioco a scopa nelle scuole vuote come un capannone, mi distendo sopra un pianoforte sciolto e mi chiedo dove sei,
dove sei,
dove sei,
dove sei,
dove sei. Ah, che bella questa estate, questa gente, tutta immagine e poi niente, e nessuno vuole dirmi dove sei. Faccio stragi, ma se passo da perdente, prima o poi la stessa gente mi telefona e mi dice dove sei. Sono stanco delle mie stesse parole, qui si fanno solo prove, non si sa chi diventare, e per fortuna che ti ho visto, per fortuna almeno tu sei come sei.
Come sei,
come sei,
come sei.
Basta questa estate, questa gente, non mi portano più a niente, ma che importa se mi dici dove sei. Pensa un po' che mi travesto la pezzente, sparo lacrime abbronzanti e le vendo per scoprire dove sei. Non riesco a far più niente, qui si muore con la gente che non sa cosa vuol dire insieme a te. Ti ho trovata sopra un panfilo lucente, l'ammiraglio inconcludente, ma che importa se tu sei vicino a me.
C'est l'une des régions d'Italie les moins touristiques et peut-être bien les plus reculées. S'agissant de la Calabre, Alessandra Pierini, est-ce qu'on pourrait parler d'Italie profonde ?
Bah oui, c'est l'extrême pointe donc de la péninsule, la pointe de la Botte, si on ose dire, parce que nous savons que dans le Talon, nous avons les Pouilles, qui est une région beaucoup plus connue que la Calabre. C'est une terre serrée donc entre deux mers, la Ionienne à l'est, la Tyrrhénienne à l'ouest, et nous avons au moins le 40% du terroir occupé par des collines, encore l'autre 40% par des montagnes qui montent jusqu'à 2000-2200 mètres d'altitude, et il nous reste juste un petit pourcentage donc de plaine qui est constituée entre la plaine de Gioia Tauro, qui est plutôt dans le sud, et la plaine de Sibari, qui est dans le nord.
Donc mer et montagne, c'est pas une caricature pour définir les paysages de Calabre.
Ah non, pas du tout. C'est vraiment sa carte d'identité.
Il y a même des montagnes qui montent assez haut.
On peut faire du ski, il fait froid. Parmi les oliviers, il faisait bien frais le soir. Et voilà, c'est comme ça qu'il y a quand même cette biodiversité incroyable, parce que nous avons en fait un microclimat assez continental à l'intérieur, plus sur les côtes, beaucoup plus chaud et aéré. Ça donne la possibilité d'avoir énormément de produits différents.
Pas mal d'auditeurs se disent, mais est-ce que c'est beau la Calabre? Ils ont davantage entendu parler de cette région pour de mauvaises raisons, souvent la mafia qui a fait des dégâts quand même dans cette région.
Oui, c'est bien malheureux.
Que pour ses cartes postales, ses plages, sa cuisine, oui, on leur confirme que c'est beau.
Ah oui, c'est une très belle région. D'ailleurs, il y en a pour tous les goûts, en fait. Pour ceux qui aiment la mer, nous avons des plages incroyables, qui sont donc du côté de la mer Tyrrhénienne, des plages de sable assez larges. Donc, il n'y a pas de falaise. Donc, la plage, elle rentre assez sur les côtes. Et après, il y a une superbe montagne, donc.
Avant de relever les spécificités de la cuisine calabraise, voyons déjà, de façon générale, ce qu'elle a en commun, notamment dans la grande aire culturelle et géographique dans laquelle elle se situe, évidemment, la Méditerranée. C'est une cucina povera, on pourrait dire cucina même contadina, c'est-à-dire
c'est ça, c'est
paysanne.
C'est assez rustique, paysanne, tout à fait.
Avec beaucoup de produits en commun avec la diète méditerranéenne.
Ah bah oui, bien sûr. Moi, je dirais même, j'oserais dire que la cuisine calabraise, c'est un peu la mère de toutes les cuisines méditerranéennes. Donc, c'est vrai qu'elle est moins connue parce qu'elle s'est moins exportée, juste parce qu'il n'y a pas de facilité, en fait, juste de transport. Il n'y a pas énormément de cours d'eau. Il n'y a que ces montagnes qui sont difficiles d'accès, très peu de routes et très peu d'autoroutes. Et elle se vend un petit peu moins que la cuisine beaucoup plus connue de la Sicile ou des Pouilles, mais elle est aussi riche. Et disons que c'est là qu'on peut avoir encore aussi des traditions.
Cette région, elle est sainte de côtes, donc tout ça invite à l'exportation, au commerce vers l'arc méditerranéen.
Ah oui, oh oui, tout à fait. Et pourtant, en même temps, elle est très isolée. Ah oui.
Dans les rares idées reçues qu'on a sur la Calabre, d'ailleurs, c'était une des premières remarques qu'on entendait dans le son qui attaquait cette émission, picante, cuisine pimentée. Est-ce que vous entendez ce bruit? Voilà, Achoum. Je suis en train de faire un drôle de bruit. Non, ce n'est pas un instrument de musique.
Ce sont des piments.
Je tiens une guirlande.
Une guirlande, oui, de poivrons séchés. Exactement. Et nous avons pas trop loin aussi un bouquet de piments frais. Donc cette fois-ci, bien piquant et bien relevé.
Les bleus et des rouges très intenses.
Très
intenses. Vermillon.
La cuisine calabraise, on peut dire vraiment que c'est une cuisine rouge, mais pas forcément pour ça piquante.
C'est ça.
On trouve, oui, le piment, surtout dans une cuisine du sud, je dirais plutôt au bord de mer.
Donc là, on peut avoir des plats, effectivement, un peu relevés.
Bien relevé, oui. Et aussi le piment à table, qu'on peut utiliser après de l'entrée aux plats principaux. Et par contre, si on remonte plus dans les montagnes, nous allons avoir une cuisine, je dirais, beaucoup plus audacieuse, mais dans les saveurs, dans le goût très marqué, mais plutôt du poivron, de quelque chose d'assez savoureux, ces poivrons doux, très parfumés, qu'on trouve surtout dans cette région du nord de la Calabre, que nous retrouvons aussi un petit peu autour d'un basilicate, et qui parfume énormément de plats, aussi bien frais, mais surtout séchés, et même réduits en poudre.
Donc le goût du piment, mais sans la force, et notamment s'agissant d'un piment mythique que connaissent bien, une espèce de graal pour les gourmets italiens et du monde entier, c'est le fameux peperone crusco. Littéralement, le piment croquant, c'est cette fameuse guirlande que je secouais, on pourrait en décorer ses sapins de Noël, tellement elle est belle. Et c'est effectivement ce qu'on pourrait appeler l'oro rosso, c'est l'or rouge de Calabre.
On s'en sert comme si c'était une épice, en fait, comme si c'était un peu du safran.
C'est ça.
Ça colore les plats, ça relève soulève énormément toutes les recettes et c'est parfumé, c'est juste délicieux.
Et c'est un piment qu'on trouve en Calabre évidemment, mais qui est aussi commun avec une région limitrophe, la Basilicate.
La Basilicate, juste à côté. Ils ont juste la variété, s'appelle différemment. Donc en Basilicate, ce sera le peperone di Senise, qui est aussi une IGP.
Et indication géographique protégée.
Protégée. Et par contre, celui qui se trouve en Calabre, ça sera le Roggianese aussi IGP, qui est aussi dans la province de Cosenza.
C'est ça, au nord de la Calabre. On fait un pas de côté en Basilicate, cette province qui est juste à côté de la Calabre. Elle a de nombreux produits en commun et on se rend particulièrement à Matera, la ville troglodyte classée au patrimoine de l'UNESCO, très touristique, c'est vraiment un lieu de pèlerinage. On s'introduit dans les cuisines de Nicola Stella, le chef du Palazzo Gattini, pour une pasta povera. C'est une pâte toute simple avec trois fois rien. On va cuisiner d'ailleurs, Alessandra, un format un peu particulier, les cavatelli. Ça fait partie de cette grande famille de pâtes qui sont façonnées avec le pouce.
Absolument. On connaît très bien les orecchiette des pouilles. Donc c'est un petit peu la même sorte de pâte, bien amidonnée, un petit peu grossière comme ça. Et on étire en fait cette pâte ronde pour en faire une pâte plutôt allongée, un peu comme une feuille d'olivier, disons.
C'est ça. C'est bien dit.
Étiré avec les doigts.
Étiré avec les doigts. C'est parti pour les cavatelli con peperone crusco e mollica di pane. Les cavatelli au piment croquant et aux miettes de pain. Attention, le piment croustille.
Waouh. C'est fruité, c'est doux, très aromatique. Nicolas, on les fait, ces pâtes?
Si. Cavatelli. La cottura dure 7-8 minutes.
Ok. Là, vous mettez une bonne poignée de morceaux de pain légèrement rassis dans l'huile d'olive dans la poêle.
Deve frigolare il pane. In Italia si dice che deve frigolare, non friggere.
Frigolare.
Frigolare, ça veut dire quand ça fait ce bruit de friture dès que le pain touche l'huile.
Absolument. Et là, le pain dans la poêle s'imbibe de l'huile d'olive. Hein.
Il s'imbibe de l'huile d'olive et aussi il change de couleur. Il devient vraiment bien toasté et marron un peu plus foncé, une bonne couleur noisette soutenue.
Si, noisette. Non bisogna far toccare, continuare la cottura perché l'olio è comunque bollente.
Et vous avez isolé les morceaux de pain dans un coin de la poêle pour pas qu'ils continuent à cuire dans l'huile d'olive. Une autre poêle.
Si, mettiamo un po' di olio. Perché adesso dobbiamo scolare la pasta.
Alors maintenant, Nicole, il a mis à nouveau de l'huile dans la poêle parce qu'il ne va pas tarder à égoutter les pâtes. Et en fait, les pâtes, il faut les plonger dans l'huile bien chaude de façon que l'amidon soit fixé dans la pâte, il ne soit pas dispersé. En fait.
À peine le temps d'égoutter avec une écumoire directement dans la poêle avec l'huile d'olive.
C'est assez spectaculaire. Parce que ça fait des flammes assez étonnantes.
Incroyable. Donc là, il y a la portion, un peu de sel, les grosses miettes de pain.
Adesso possiamo mettere l'olio che
le grosses miettes de pain avec le reste d'huile d'olive. Elle va être mélangée donc aux pâtes, toujours dans la poêle sur le feu.
Possiamo impiattare.
Et là, vous sortez une assiette. Il va dresser ses pâtes. Il boit le piment, en fait, le piment frit entre ses mains.
Il rajoute un petit peu de poudre du même poivron et un trait d'huile d'olive.
Aggiungiamo alla fine un po' di olio al basilico.
Donc la touche finale, ça sera un trait d'huile d'olive avec du basilic.
Oh là là, superbe. Est-ce qu'on peut goûter ça? Je vais prendre une photo.
Posso avere una forchetta per cortesia?
Grazie. Antonietta.
Sinon on y va avec les doigts, non?
Grazie.
On mélange un peu.
Alors déjà, ça fait très joli dans l'assiette parce que le poivron, il est très décoratif. C'est simple, très savoureux. J'adore les pâtes. Elles sont assez consistantes.
Oui,
c'est vraiment une
pâte
de
belle texture. Il y a encore le croustillant du poivron.
Le pain, ça croustille. Le poivron aussi. Puis c'est la saveur qu'il a, en fait. Il a de la saveur, mais il est doux en même temps. Donc c'est vraiment un régal.
Bravo, chef. C'est délicieux.
Super. Un plat de cucina povera, mais qui est vraiment très riche en goût.
et riche en soleil.
Beaucoup de soleil.
Une épatante pâte de Nicola Stella, le chef de Matera. Hein. C'est le Palazzo Gattini et il faisait les cavatelli au poivron croquant et miettes de pain. Donc c'est vraiment une recette toute simple qu'on peut retrouver d'ailleurs sur franceinter.fr à la page, on va déguster. Le pain, c'est quand même la preuve qu'on est bien dans cette cucina povera où on ne jette jamais le pain, on le recycle, hein, Alessandra.
Absolument, et puis c'est un pain bien particulier. Hein. Ce sont deux régions d'Italie où nous avons des pains qui se gardent très longtemps. On a le pane di Matera, pas trop loin, qui est aussi un pain IGP. Ça se fait toujours avec du blé local, de la levure mère et cuit absolument au feu de bois, de façon qu'il y ait une croûte bien épaisse et une mie bien, bien alvéolée. Donc c'est un pain qui se garde et on le réutilise après dans beaucoup de recettes, surtout des pâtes.
Est-ce que c'est des pains peu salés pour aller avec les charcuteries? Parce que souvent, la caractéristique des pains italiens, c'est que selon les endroits, ils sont pas salés, voire...
Comme en Toscane. En Toscane, c'est le pane sciocco, qui est celui qui n'est pas salé du tout et c'est fait exprès. Un peu moins dans le sud, mais c'est vrai qu'ils ne sont pas trop relevés.
Transition toute faite vers la charcuterie précisément. On disait qu'on était dans une région de montagne et de mer. Alors c'est vrai qu'on a des produits de la mer, mais surtout d'ailleurs conservés. Hein, l'espadon, le thon, l'anchois. On en fait des conserves, plus qu'une consommation fraîche.
Ah, c'est ça, même la morue, on trouve sous l'huile comme ça pour les utiliser dans les salades, même dans les plats.
Et dans les montagnes, il y a bien sûr des traditions charcutières, mais également des traditions fromagères. Mmh. Et parmi ces traditions charcutières, il y a un produit qui a connu une espèce de carrière internationale, que connaissent bien les gourmets un peu branchés qui nous écoutent, à New York, à Londres, à Paris. Il y a eu comme une espèce de raz-de-marée de ce produit charcutier de Calabre. Vous voyez de quoi je veux parler?
Ben oui, c'est bien l'andouille.
Voilà, et si c'est bien en plus un exemple... Deux produits qui, pour le coup, a vraiment une force pimentée avec quelques degrés en plus dans l'échelle de Scoville. Hein. C'est-à-dire que là, ça arrache un peu.
Oui, il faut être prêt hein, pour déguster ça. Il faut avoir le palais un petit peu aiguisé au piment.
Comment vous vous appelez Ndouya?
Ndouya, c'est N'D-J-U-I-A.
Et ça sonne un peu comme andouille?
C'est, oui, le nom vient un peu d'andouille, de l'andouille française.
Il se trouve que la Calabre était sous domination normande, je suis obligé de le dire.
Et ben voilà. Donc c'est l'andouille de Vire. C'est ça, l'influence de Vire, absolument. Est-ce qu'on pourrait définir ce produit, sans être trop caricatural, comme une pâte à tartiner charcutière?
Oh ben on peut bien. D'ailleurs, ça se vend aussi sous forme de saucisson. Donc cette pâte très très moelleuse est dans un boyau, mais on la trouve très souvent aussi dans un pot comme une conserve.
C'est ça.
Et on la tartine. D'ailleurs, c'est comme ça sa première utilisation. Elle est tartinée de façon plus ou moins épaisse. Hein. Ça dépend de la tolérance au piment sur du pain un peu tiède.
Saucisson tout mou. Là, vous êtes en train de découper la peau, Estherelle. Il y a véritablement une espèce de chair à saucisse qui pourrait être un peu la cousine calabraise de la soubressade des Baléares, par exemple.
C'est ça, oui. Ben, les Aragonais aussi étaient par là aux environs au XVIIe siècle. Donc, à mon avis, il y a eu aussi un peu quelques influences espagnoles.
Comment vous expliquez que ce produit soit absolument partout? On est allé en Calabre. Les Calabrais n'ont pas l'air d'être les premiers fans de andouilla, il faut bien reconnaître.
Bah, disons que les Calabrais, surtout là où sont allés, il y a des éleveurs de porc. Souvent, celle qu'on a ici sur le plateau, c'est une andouilla de porc noir autochtone. Et c'est fait avec les restes, en fait. Hein. Ce sont des bas morceaux du cochon et surtout constitués par 50-60% de gras. C'est pour ça qu'elle est très, très fraîche.
Donc elle est plateuse pour le palais.
Et très, très souple.
Qu'est-ce que vous en pensez, Dominique Sarrache, ou pas?
Un petit peu, mais ça donne l'occasion de se resservir un verre de vin.
Vous voyez la couleur de cette charcuterie
ce rouge vif.
Un peu molle comme ça, c'est rouge vif. Hein.
Ah oui, oui. Là, on ne s'y trompe pas.
Mais on a beurre et chorizo en même temps. Quoi.
C'est ça, mais c'est une façon de récupérer les bas morceaux du cochon.
Oui, bien sûr, bien assaisonné comme ça. Il y a aussi du fenouil, du poivre. Enfin, il y a du piment, de la force, mais il y a aussi beaucoup de goût.
Preuve que tout est bon dans le cochon est aussi un proverbe calabrais.
On va déguster sur France Inter.
Je piège Dominique Hutin, le premier jour de son retour, c'est pas très sympa, il peut pas faire sa chronique puisqu'il a la bouche en feu à cause de la ndouilla. Comment va-t-il s'en sortir? Suspense.
Eh ben écoutez, je vais me raccrocher au bras, je vais faire comme je le peux.
Respirez Dominique.
Je vais vous plagier, voilà. Je vais vous piquer le mot rouge parce que la cuisine rouge, je vais répondre par un vin rouge, c'est pas très original. Vino rosso, on peut dire comme ça.
Il a les cordes vocales en flamme.
Donc je vais vous parler de Dominique le vigneron.
Ah. L'autre?
L'autre, voilà, je vais devancer vos sarcasmes. Il ne s'agit pas de moi, mais de Domenico, qui est un vigneron calabrais. Et du coup, cette chronique va entrer un petit peu en résonance avec la cuisine, la rusticité aussi, que vous avez invité un peu dans la conversation. Puisqu'on va s'approcher d'une viticulture ancienne, familiale. On est dans une zone qui n'est pas une toute petite zone, puisque c'est la taille du Roussillon pour nous en France. Mais en revanche, en termes de notoriété, on parle là du petit poussé de l'Italie, quasiment même le mal-aimé. Je dis le mal-aimé parce qu'il n'est pas rare que des importateurs fassent l'impasse sur la Calabre.
Ah, carrément.
Oui, voilà. Ah, oui. Pire, des guides du vin, il y en a un qui vient juste de sortir, tout fraîchement, la semaine dernière, qui fait l'impasse, lui aussi, sur la Calabre.
Et comme cette région n'existait pas, était rayée de la carte, quoi.
Ben voilà. Oui, c'est une négation absolue que les vignerons, il faut bien le dire, n'ont pas tout à fait réussi à enrayer. Et d'ailleurs, c'est un parent pauvre au sens premier du terme. Et Alessandra, vous allez nous illustrer, peut-être avec une petite phrase, un dicton calabrais.
Oui, que meglio vino maledetto qu'acqua santa.
Et vous traduisez.
Mieux un vin maudit que de l'eau bénite.
Mieux vaut un vin maudit que de l'eau bénite.
Très bien. Voilà. Donc il y a quand même quelque chose d'assez étonnant, parce qu'on disait tout à l'heure qu'il y avait une situation au littoral, une ouverture naturelle de commerce sur l'arc méditerranéen. Eh ben non, la Calabre viticole ne jouit pas d'un périmètre international, comme par exemple l'image des vins de Toscane, qui eux ont trouvé leur public. Il s'agit là d'un vin de l'intérieur, c'est-à-dire un vin qui est produit et qui plutôt se consomme sur place. Alors il y a deux manières de voir les choses. Soit vous êtes pessimiste, auquel cas vous allez dire « oui, ben voilà, c'est le parent pauvre de la viticulture », ou alors vous êtes optimiste, auquel cas vous allez dire « mais finalement, c'est une valeur de découverte ». Évidemment, c'est la voie que moi j'ai choisi d'emprunter. Et puis, il y a quand même quelque chose d'assez intéressant, parce que si Calabria rime avec terra incognita, eh ben s'il n'est pas dans les radars des grands amateurs, il y a quand même un contraste assez fort, c'est son passé. Pourquoi ? Parce que la Calabre viticole peut s'appuyer sur une très riche histoire. Elle est riche à ce point que le vin vedette qui s'appelle Rico, dites-le à ma place, je crois que ce sera mieux.
Non, la prononciation était bonne.
C'est ça ?
Oui.
Ah oui, Chiro. D'accord.
Chiro. Oui, c'est beaucoup mieux quand même.
Chiro.
J'ai dit à l'envers. Eh bien, ce vin, c'est celui qui était servi au vainqueur des Jeux Olympiques. Donc voilà, il jouissait d'un lustre tout particulier. Et puis surtout, en 1500 avant Jésus-Christ, la région s'appelait Œnotrie, le pays du vin. Les habitants, les œnotres. D'autres comme œnologues, œnophiles, etc., etc. Donc voilà, on s'appuie sur quelque chose de très fort, les cultivateurs du vin, qui portent deux notions. Une région, le vin, on l'a dit, et puis cultivateur, une espèce d'économie domestique et naturelle. Ce qui laisse penser que les viticulteurs locaux pensent que moins un vin est transformé, meilleur il est. Donc j'ai amené une bouteille pour l'illustrer, il s'appelle Uno, le domaine c'est Nasiri. Nasiri, ça veut dire naître, ou quelque chose d'approchant, vous me corrigez.
Je suis en train de naître.
Voilà, et bien en fait c'est vraiment une renaissance, parce que Domenico donc, et Francesca, sa compagne, ont mené d'autres carrières dans l'architecture, dans l'économie, et puis se sont repliés sur le domaine pour mener ce travail agricole, et au final on est quand même plutôt dans l'idée d'une ferme. Voilà, 20 hectares, 7 hectares qui sont dévolus aux olives, 7 hectares qui sont dévolus aux vignobles, et puis d'autres petites productions qui sont...
polyculture.
Polyculture, exactement. Et bien alors surtout, ce qui est important à relever, c'est que les cépages, évidemment, sont autochtones, et évidemment, ils soulignent les origines grecques de cette région, cette influence majeure de la Grèce, jusque dans les cépages. Donc, et en l'occurrence, ça c'est un 100% gréco. Nero.
Ah, Greco, ça sonne grec, effectivement.
Greco, absolument.
Les influences grecques sont très importantes en Calabre.
Voilà. Absolument, oui.
Alors, tout ça, c'est vinifié en cuve d'acier, c'est affiné pendant 3 ans. Et puis, vous doutez que j'ai pas fait 8 heures de train pour vous parler d'un vin industriel. Là, on est dans la biodynamie, évidemment. Ce vin parle le langage du vin naturel, c'est-à-dire ni contrôle de température, ni sulfite ajouté, ni fût de chêne et ni appellation. C'est un vin de table, au final. C'est l'équivalent d'un vin de table. Et cette bouteille, finalement, qu'est-ce qu'elle symbolise ? Elle symbolise l'endroit où elle est née, parce que cette bouteille est traversée par ce que porte la montagne qui est toute proche. Aussi parce que cette bouteille est traversée par la proximité de la mer, donc la fraîcheur. Parce que cette bouteille aussi, elle est traversée par le soleil, vous l'avez senti. 320 jours de soleil par an, c'est quand même une des régions les plus ensoleillées d'Europe. Et puis cette bouteille, elle est aussi traversée par ce qui est resté de l'histoire. Le cépage Greco Nero. Et puis cette bouteille est traversée par ce que sont les gens là-bas, jusqu'au point d'être traversée par le quotidien du 21e siècle, avec, ben, il faut le dire, l'ombre de la mafia. Alors, c'est un sujet que l'émission ne suffirait pas à épuiser. Donc, pour en savoir plus, je vous invite à m'envoyer un email à françoisregisgaudry@jeanmaire-de-la-mafia. Et si ça vous est plus pratique, .com. Je peux même vous donner une adresse physique si vous le préférez. Voilà. Alors pour ce vin, dernière chose, le mode d'emploi. Première chose, si vous êtes à un resto à Paris, vous allez chez Vino Nostrum. Vous allez chez Retro Bottega, qui sont des endroits qui tiennent un petit stock de bouteilles de Calabre. Deuxième chose, un salon, bientôt, au mois de décembre, qui va nous parler de tous ces producteurs italiens, dont notre ami qui sera présent physiquement. Toutes les infos sont sur le site, donc je ne les égrène pas. Et puis, il y a une troisième possibilité, c'est si vous nous écoutez de Calabre, eh bien, vous allez à l'extrême pointe de la Calabre, un bled, je ne peux pas le dire autrement, moins de 1900 habitants, Caldetto, et là-bas, on y tient la Festa del Maiale.
La fête du cochon.
Et donc, le cochon, vous allez le cuisiner comme vous l'entendez, la pancetta, bon, vous faites ce que vous voulez. Moi, je vous engage à le cuire au barbecue. Et pourquoi ? Simplement parce que le barbecue ne cuit qu'à la braise.
Oh, le haut niveau. Vous avez bien fait de revenir, Dominique.
N'est-ce pas ?
Ça me plaît beaucoup, bravo. Une petite idée du budget, on est dans des prix raisonnables.
Celui-ci, il a trouvé son public hexagonal, donc il est à 18 euros dans les restaurants. Donc c'est un prix resto avec coefficient.
Bien sûr.
Évidemment, si vous allez en Calabre, vous allez trouver des vins avec des prix éminemment plus humbles.
Nacieri, cuvée Unu et
toutes
les références de Dominique Hutin sont à retrouver sur franceinter.fr à la page On va déguster. Dominique évoquait la charcuterie, précisons qu'il existe en Calabre, une race ancienne de cochons.
Ah oui, le maiale nero, le suino nero de Calabria, c'est une race autochtone. On en trouve pas mal aussi, hein, donc dans le sud de l'Italie. Et c'est vrai que là, la charcuterie à partir de cette viande-là, elle est quand même assez exceptionnelle. Ce que nous avons goûté vaut le détour.
Dans un instant, on vous fait déguster des recettes que nous a préparées Alessandra Pierini. Il y a également une drôle de technique, de gestuelle pour faire une pâte primitive dont on vous dit pas plus, mais qui est tout à fait surprenante. Et puis Esterelle, évidemment, va s'occuper d'une charcuterie d'un genre un tout petit peu particulier. Ça se passe juste après Magnifique de Junior. Bon appétit sur France Inter.
Magnifique. Magnifique.
Andiamo a mangiare la Calabria su France Inter.
On va déguster.
Vous êtes bien sûr France Inter, on voyage tout au bout de la pointe de la botte italienne pour explorer les saveurs de la Calabre en compagnie d'Alessandra Pierini, notre experte italienne. Vous allez une fois de plus nous prouver que la cuisine calabraise, la cucina calabrese, est bel et bien una cucina povera, puisque vous nous proposez une petite recette que vous avez estorquée à un ami dont la maman est calabraise.
Dont la maman est calabraise, oui, c'est une recette avec de la stroncatura, que ça, même tous les Calabrais ne connaissent peut-être pas. C'est une sorte de pâte typique de la plaine de Gioia Tauro, donc dans le sud de la Calabre. Une sorte de spaghetti assez rustique,
un peu plat,
entre les deux, voilà, c'est bombé au centre, après ça s'aplatit sur les côtés, bien rustique, bien épais. C'était fait dans le temps avec tous les restes des moulins de blé, de variétés de blé différents.
Donné aux pauvres.
Donc, quand on faisait
des résidus
de blé, comme ça.
Et
donc, on faisait ces pâtes avec beaucoup de goût, un peu foncé, juste avec une sauce très simple, huile d'olive, de l'ail, des anchois.
Alors, cette recette est magnifique. Vous allez nous l'expliquer vraiment. Vous l'avez déjà expliqué, quasiment. On peut préciser à nos auditeurs, parce qu'elle vaut vraiment le coup, cette recette, je l'ai testée à la maison, que s'ils ne trouvent pas la stroncatura, évidemment, ce format particulier calabrais, on peut trouver de bons spaghettis.
De préférence bien artisanaux, avec cette consistance un peu rugueuse, ou des linguines, mais aussi les pitchi de Toscane, on les trouve plus facilement, des gros bucatini, des spaghettoni.
Des trucs qui accrochent la sauce.
Accrochent la sauce avec une pâte un peu rugueuse.
De pâte complète ou semi-complète, c'est mieux, oui.
On a la recette sur franceinter.fr à la page On va déguster, mais vous nous expliquez quand même en trois gestes comment ça se passe.
Très rapidement, c'est très simple à faire. Pendant que les pâtes cuisent, on fait revenir de la très bonne huile d'olive bien fruitée, un petit peu d'ail, des olives et des capres qui sont pratiquement partout dans la cuisine calabraise. Et on fait cuire les pâtes, on les fait sauter dans cette sauce. On aura préparé toujours aussi le pain, comme on a parlé tout
on
à l'heure
revient,
aussi.
Le pain.
Un petit peu revenu à l'huile d'olive. On va l'émietter juste grossièrement avec les mains sur les pâtes. On sert comme ça avec beaucoup, beaucoup de persil frais.
Ah, du persil frais, ça apporte une petite note végétale.
Et pas oublier dans cette recette, bien sûr, que vous aurez sur le site, l'anchois à l'huile d'olive.
Vous avez oublié l'anchois ?
Oh, j'avais sûrement oublié l'anchois,
c'est
peut-être
ça.
Tout à l'heure, oui. Estelle, elle me fait des gros yeux.
Et à quel moment il se met l'anchois ?
Au départ, quand on fait revenir avec
l'huile d'olive, on fait revenir l'ail.
L'huile d'olive, l'ail, les capres,
les anchois. Des bons anchois à l'huile d'olive.
Pas trop salé, si possible.
Parfait. On évoquait l'influence grecque sur la Calabre, notamment à travers toutes ces méthodes de conservation. Les fruits séchés, comme les figues, les poissons en conserve, etc. Mais il y a également une influence totalement méconnue, c'est l'influence albanaise. Il y a même une vraie communauté
l'Alberèche, oui, qui sont arrivés au 15e siècle, quand ils ont fui donc l'avancée de l'Empire ottoman, et donc ils se sont installés dans ces montagnes. Et il y a une identité alberèche donc très très ancrée, et on y parle toujours cette langue, donc le dialecte même des Calabrais qui sont là, c'est le leur, et aussi la tradition culinaire.
C'est ça, et la tradition culinaire, on en a découverte une épatante dans le petit village de Civita. C'est un village de montagne, 600 mètres d'altitude, au nord de la Calabre. Et dans ce village, il y a un restaurant où on est allé ensemble, la Camastra, estampillé slow food. Nous recevions Carlo Petrini la semaine dernière à la Vache Nantaise. C'est le fondateur de ce mouvement qui défend l'agriculture paysanne. Et on a eu un choc. Une recette de pâte primitive qui doit certainement exister depuis la nuit des temps. C'est la...
Dromsa.
La dromsa, une pâte d'origine albanaise. Pour cette recette, c'est pas compliqué. Il faut trois ingrédients. De la farine de blé, de l'eau et un bouquet d'origan.
Allora, si comincia a prendere la farina.
On installe donc la farine de blé tendre.
Dopodiché si prende l'origano imbevuto.
Ensuite, nous avons un beau bouquet d'origan, donc sauvage, j'imagine, qui a été trempé dans un bol avec de l'eau.
La farine est étalée sur la planche et là, elle a carrément béni avec ce bouquet d'origan et ça fait plein de petites gouttes qui sont tombées sur la farine.
Sur la farine, c'est vraiment le mot qu'il a employé. Il bénit la farine avec l'origan et l'eau.
Et sembra precisamente come quando piove sulla spiaggia.
Donc ça fait exactement quand il pleut un tout petit peu sur la plage et il refait donc exactement le même geste avec l'origan.
Ah oui, il pleut, ça mouille.
Dopodiché si riunisce di nuovo. La farina, si prende il nostro setaccio.
D'accord, donc il répète l'opération deux ou trois fois. Et ensuite, il met la farine qui a été tout légèrement mouillée avec l'eau et l'origan.
et il la passe au tamis.
Incroyable, là il vient de remuer le tamis et on obtient des petits grumeaux de taille très irrégulière, comme des petites billes de farine qui sont faites uniquement avec de l'eau. Est-ce que l'origan apporte da un perfumo à l'acqua?
Si, à l'acqua e in più cadono i pezzettini dell'origano.
Mais le fait de laisser un petit peu en amont tremper l'origan dans l'eau, donc déjà ça colore légèrement de vert clair l'eau, ça donne énormément de parfum et en plus il y a des petits brins d'origan qui restent dans la farine qui vont se mélanger à la pâte.
Vous me disiez, chère Esther El Payani, pendant ce son, qu'on dirait presque du couscous, en fait.
Mais oui, j'ai cru au départ que c'est comme de la frégola sarde, mais en voyant le tamis, l'agitation du tamis, ça se forme naturellement et c'est vraiment le même geste que pour la fabrication du couscous ou du maftoul palestinien. Aussi.
C'est ça, parce que j'ai tourné sur place une courte vidéo avec le chef Francesco Alghieri, à retrouver sur franceinter.fr à la page On va déguster. C'est absolument étonnant. On a l'impression d'une bénédiction de la farine avec un bouquet d'origan.
Et ensuite, une cuisson là assez rapide dans une sauce que par contre n'est pas très rapide celle-ci. On l'aura préparée déjà la veille avec de la tomate, de la pulpe, le jus. Ça mijote très longtemps dans une casserole.
Et ça mijote tellement d'ailleurs que ça a des reflets cuivrés.
Cuivrés, il faut que ça devienne un petit peu orangé avec beaucoup de piment doux et surtout aussi encore une fois, de la saucisse égrenée qui mijote dans cette sauce et qui laisse remonter à la surface un tout petit peu d'huile. Donc, c'est bien luisant.
Un tout petit peu, Alessandra.
C'est gentil.
Vous n'avez pas fini votre assiette. En même temps, c'est une cuisine, on est à 700 mètres. Il fallait évidemment affronter un peu certains froids qu'il y avait quand même en Calabre. Il peut faire froid.
Bien sûr, tout à fait.
Ça, je retrouve un peu de la Corse d'ailleurs, entre ce côté montagne et mer.
Oui, oui.
Il y a vraiment ce contraste extrêmement fort qui donne une identité à fort tempérament. Alors, il y a évidemment des produits emblématiques, l'oignon rouge de Tropea, malheureusement il est croquant, il est doux, mais on peut pas trop s'y attarder parce qu'on va venir directement à une autre recette que vous nous avez apportée, j'ai déjà boulotté toute mon assiette, à base de patate, preuve que aussi la pomme de terre est très présente en Calabre.
Très présente en Calabre et c'est la patata della Sila, la pomme de terre qui est cultivée sur ce plateau qui est à 1200 mètres d'altitude, donc elle possède un pourcentage d'amidon plus important que toutes les autres variétés de pommes de terre, donc ça donne une consistance beaucoup plus importante à la chair et aussi une saveur assez étonnante. Donc elle est un peu fondante à l'intérieur, mais elle se tient très très bien à la cuisson qu'il faut absolument faire avec la peau, garder la peau à la cuisson à l'eau.
Pour faire cette recette à la maison, évidemment, cette variété est introuvable en France, ou presque.
Oui, presque.
Quelle variété de pommes de terre pour cette
salade? Je dirais des pommes de terre avec la chair assez ferme, donc une chair Charlotte, c'est parfait, ou la Belle de Fontenay aussi, c'est celle que j'ai utilisée, avec
Qu'est-ce
une chair blanche ou jaune.
Comment on s'y prend?
On fait bouillir ces pommes de terre, donc 20-25 minutes, selon la taille, avec bien sûr, comme je disais tout à l'heure, avec la peau.
Oui.
Et ensuite, on prépare dans un saladier les câpres et à nouveau les olives. Là, cette fois-ci, on va mettre du piment en poudre et surtout de l'origan. C'est ça qui va donner l'origan de montagne, l'origan sauvage.
Qu'on offre souvent d'ailleurs aux invités. On a débarqué dans une masseria, on nous a tendu un bouquet frais d'origan. Quel parfum, il n'a rien à envier à ce fameux origan de Péloponnèse en Grèce dont on parle souvent. Cet origan calabrais est tout à fait surprenant.
Mais
Dominique,
moi je trouve toujours ces petites branches, on ne peut pas les grainer, on ne peut pas l'effeuiller.
Normalement, il le faut.
Si.
Vous reprochez à Alessandra de ne pas avoir assez égrené.
Mais c'est du vrai origan de montagne, sauvage. C'était pas dans un pot tout ça.
Donc, pommes de terre coupées en tranches une fois qu'elles ont été cuites et épluchées. De l'olive un peu noire, confite, découpée en petits morceaux.
Un petit morceau.
De l'origan.
Et bien sûr, l'oignon et l'oignon de Tropea.
C'est ça
qu'on aura mangé cru, puisqu'il a un goût très parfumé, subtil, et un peu moins fort que les autres oignons. Ça donne une jolie couleur rose qu'on retrouve de temps en temps. Et c'est assez délicieux, avec la toujours bonne huile de Calabre.
Mais la spécialité préférée d'Alessandra est une spécialité sucrée. Je vais trahir le péché mignon d'Alessandra Pierini. On a fait une expérience tout à fait orgiaque dans le sud de la Calabre, à Pizzo, une commune de la province de Vibo Valentia. Vous vous en souvenez?
Oh, bien sûr.
Je vais vous rafraîchir la mémoire.
Alors, nous sommes au bar Gelateria Ercole, qui se trouve sur la place de la Repubblica, dans le centre de Pizzo, juste sur le belvédère au-dessus de la plage. Un bar apparemment historique où normalement c'est un endroit où tout le monde doit venir manger une glace. Come ti chiami?
Beatrice.
Dimmi Beatrice, ma ti piace il tartufo?
Sì, perché è al cioccolato.
Elle adore le tartufo parce qu'il y a du chocolat, bien sûr. Ça, je m'en doutais.
Buongiorno.
Buongiorno, ciao. Senti, vorremmo ordinarti del tartufo, ma il tartufo originale è una vostra specialità o è la specialità di Pizzo?
Questo in realtà è il simbolo è diventato ormai di Pizzo, perché è diventato un gelato conosciuto a livelli mondiali.
Apparemment, ils ont, c'est ce qu'on dit, le meilleur tartufo di Pizzo. E dans tous les cas, il ne faut pas le rater, c'est bien ici qu'il faut s'attabler.
Très bien, allora on va commander?
Perché noi coltiviamo la cioccolata qui a Pizzo.
Donc apparemment, c'est une spécialité locale. Il paraît que quelque part, je ne sais pas où, on cultive du chocolat.
On voit un peu de granita di fragola con la palla.
Di melone, di fragola.
Fragola pure.
Perfetto, grazie mille.
Il famoso tartufo è arrivato.
Eccolo, avec une allure glacée. Donc c'est un gros pavé recouvert de cacao. Pour l'instant, j'en sais pas plus. Il va falloir que je goûte pour voir comment il est à l'intérieur.
C'est vraiment comme une grosse truffe au chocolat, en fait. Comme un cube, 6-7 cm de largeur.
Assez moelleux. On dirait qu'il est, en Italie, on dit ça, semi-freddo. Pas totalement glacé. Donc, on enfonce très facilement la...
Parce qu'ils sont quelli à l'estero qui sont tous semi-freddi.
Il a dit, c'est surtout pas du semi-freddo comme ils mettent ailleurs, que c'est une imposture.
Le tartufo, c'est le tartufo, d'accord?
Absolument.
Allora?
Allora, c'est donc une glace donc très onctueuse.
Alessandra se lance.
Bon, déjà, il faut adorer le chocolat, hein, parce qu'il est très, très, très chocolaté.
Ah, il y a un goût de chocolat incroyable.
Ah oui, non, mais c'est pas mal, hein. D'abord, il y a une couche assez importante de glace au chocolat. À l'intérieur, une glace à la noisette et le cœur avec un fondant coulant au chocolat assez délicieux.
Il y a même de la poudre de cacao. Hein.
Oui, en fait, ça rappelle une véritable truffe avec la poudre de cacao. Bon, c'est pas très sucré, j'avais un peu peur... que ce soit un dessert un peu trop écœurant, mais non, ça se mange très facilement.
Il tartufo di Pizzo. Et tu vas le finir, ce tartufo?
Vous allez m'aider, n'est-ce pas?
Et entre nous, c'est un truc un peu industriel.
Oui, pas des pires. Hein.
Donc quand on est en vacances en Calabre et qu'on a envie de faire un petit écart, ou plutôt un grand écart.
Un grand écart, mais au moins une fois dans sa vie, en passant par Pizzo, on peut goûter le tartufo di Pizzo.
E chi ne voglio fa di tanti giuri, mo casi ne è caduta la simenza.
Une chanson populaire de Calabre très émouvante qui doit rappeler des souvenirs à Alessandra Pierini.
Ouais, oui, c'est Massimo Ferrante le soir, le chanteur qui était ami des amis qui nous ont accueillis et préparé le dîner somptueux à base de toutes les spécialités calabraises. Et c'est vrai que ça mettait vraiment dans l'atmosphère et on mangeait, on picorait, on buvait, on goûtait du vin et il y avait Massimo donc avec sa guitare qui nous accompagnait. C'était quand même assez...
Masseria Perugini, c'est ça?
Masseria Perugini, oui, c'est la masseria de Gian Piero Ventura. Et on a rencontré aussi Dino Briglio del Lacino qui nous a fait goûter ses vins extraordinaires dans la cave qui était juste à côté.
Et on a mangé d'excellents fromages, car on n'a pas le temps de tous les évoquer évidemment. Bien mais sûr. La Calabre est aussi un pays de fromages. Ricotta, pecorino, crotonese. Caciocavallo.
Caciocavallo, surtout podolico, fait avec le lait de la vache podolica, que c'est une race préhistorique qu'on trouve toujours en Calabre, dans le sud de l'Italie, qui donne une viande exceptionnelle et aussi un très bon lait.
Alessandra Pierini, vous reprendrez bien un peu de dessert?
On va déguster.
Oh, j'aimerais bien, oui, pourquoi pas.
Estherel Payani, ça va trancher?
Et oui, en Calabre, on fait du fromage, mais on fait aussi des desserts. Et comme on a le sang tellement chaud, on l'utilise même à ce moment-là du repas. Le sanguinaccio, un dessert franchement pas ordinaire.
Je sens même que ça va être sanglant, cette recette. Et pourtant, on n'est pas encore à Halloween. Que se passe-t-il?
À force de voyage là-bas, vous allez finir par nous faire toute l'émission en italien, François-Régis. Oui. Hein. En effet, le sanguinaccio, c'est un dessert à base de sang de porc, cuit avec du sucre. Alors, je crois qu'historiquement, certains le faisaient aussi avec du vin cuit, du lait, de la liqueur à l'orange, des raisins secs, du cédrat confit, de la cannelle. On fait épaissir le tout à feu doux, on laisse refroidir et on sert dans des coupes, comme de la mousse au chocolat, avec de l'amande hachée dessus pour décorer.
Un boudin au chocolat, quand même, fallait oser.
Les Calabrais ne sont pas les seuls en Italie à oser ce genre de préparation. Il y a également une tarte au sang en Toscane, quasiment disparue, mais beaucoup plus sobre, avec des jolis petits croisillons dessus. Mm-hmm. Je n'y ai jamais goûté, pas plus que le sanguinaccio. Il faut se méfier parce qu'en Italie, quand on vous propose un budino, c'est pas un boudin.
De quoi s'agit-il, Alessandra ?
Non, c'est un flan, en fait, d'accord, au boudin.
Et c'est un peu comme en anglais quand on vous propose du pudding.
Oui.
Le pudding, c'est du gâteau, mais le black pudding, c'est du boudin.
C'est du boudin, bravo.
Et historiquement, en fait, dans l'histoire linguistique, c'est facile de voir que c'est boudin et pudding qui désignaient bien des saucisses de sang et que la variation sucrée dont témoigne le sanguinaccio a donné naissance à ce rameau beaucoup plus doux de ces préparations que sont devenus le pudding, le budino. C'est des desserts très cochon et finalement moins étonnant que ce qu'on peut croire.
Vous nous en avez donc apporté.
Non, alors j'avoue, ça m'a tenté comme expérience. J'y suis même allée jusqu'à appeler la chef Alessandra Montagne du restaurant Tempero à Paris, oui, pour lui demander où elle se fournissait, parce que je sais qu'elle fait partie de celles qui font du boudin, enfin, au bon sens du terme. Mais je me suis rabattue sur un boudin au chocolat de contrefaçon.
Ah.
À savoir, tout simplement, un saucisson au chocolat.
Que vous nous avez apporté ?
Bah quand même, pour finir sur une note sucrée. Le salame di cioccolato, en italien, ça on le pratique aussi beaucoup en France. En Italie, c'est d'Émilie-Romagne, surtout dans la région de Bologne, que ça se fait, puisque c'est une terre de charcuterie. On le fait aussi beaucoup dans le Piémont, avec les noisettes. Donc en gros, c'est plutôt une spécialité du nord de l'Italie quand même. Mais Alessandra me l'a confirmé, toutes les familles italiennes le font, même en Calabre.
Alors, on vient de voir qu'en Calabre, on consommait aussi beaucoup de chocolat, et notamment ce tartufo, donc tout est cohérent.
En fait, moi, on le fait plutôt pour les fêtes de fin d'année, genre kermesse en France. Mm-hmm. Moi, j'ai tendance à le faire quand je rentre de vacances d'été. Bon, ok, là, ça commence à dater un peu, mais en général, je rentre, j'ouvre mes placards et je trouve des paquets de gâteaux pas terminés de mes enfants. J'avoue, mes enfants ne mangent pas que des gâteaux maison. Les biscuits durs sont devenus mous, les biscuits mous sont devenus durs et les enfants réchignent et ça risque de finir à la poubelle. Et c'est là que je dégaine mon saucisson anti-gaspi qui disparaît comme par magie.
Qu'est-ce que c'est bon. Mais déjà, pardon, je vais être obligé de faire un peu de teasing. Je viens de découper votre saucisson, je m'en suis fait une belle tranche. C'est vrai que là, on y croit.
Ah oui, tout à fait.
C'est vraiment un trompe-l'œil. Il y a à l'intérieur des noisettes, et je devine que c'est du pain, qui pourrait figurer un peu le gras du saucisson de porc.
Alors en fait, c'est juste des biscuits sablés, le mélange de biscuits sablés qui battait de l'aile au fond de mon placard. Si vous voulez le faire à la maison, vous aussi, et vous amuser au trompe-l'œil, moi j'ai fait une variation sans beurre et sans œuf cru, parce que la plupart des recettes contiennent de l'œuf cru, et je trouve que c'est pas une bonne idée pour le conserver. 100 g de chocolat noir à pâtisser, 100 g de chocolat au lait, j'aime bien les mélanger pour avoir quelque chose de souple, vous les faire fondre au bain-marie. En dehors du feu, vous rajoutez 80 g de pâte à tartiner à la noisette sans huile de palme, bien évidemment.
D'accord.
Ça va apporter du moelleux et du gras. À côté, vous vous défoulez en tapant au rouleau à pâtisserie sur vos biscuits sablés, 125 g, un petit paquet, et quelques noisettes ou des amandes grossièrement hachées. On mélange le tout, on roule dans un papier aluminium, on le laisse au frigo 4 heures, et au moment de servir, on l'enroule tout simplement dans du sucre glace.
Mais que c'est bon.
C'est très 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 régressif, à couper en fines tranches.
Ce saucisson pour l'apéro, c'est un saucisson de dessert, c'est délicieux.
Ah, c'est très très bon.
C'est tout simple. Ils ont dit que ce serait mieux si je pouvais y goûter aussi.
Avec la note pralinée, non, franchement, j'aime beaucoup. Vous en pensez quoi ?
C'est délicieux. Ah, j'adore. C'est très bon, sans le chocolat, mais aussi le croustillant des fruits, la noisette, super.
C'est bon et anti-gaspi surtout.
Merci beaucoup Estherelle pour cette super recette qu'on retrouve comme toutes les autres, bien sûr, sur notre site internet. Merci beaucoup Alessandra.
Merci à vous.
À très bientôt pour de nouvelles aventures italiennes. On s'est vraiment régalé avec vous. On précise que la semaine prochaine, vous co-organisez un événement qui mérite le détour.
Bah oui, ça sera la semaine de la gastronomie, donc gastronomie et goût de France. Et le 21 et 22 septembre, donc on sera à la mairie du 9e pour organiser une dégustation de produits de Méditerranée, non seulement italiens, mais aussi corse, grec et du sud de la France. Il y aura de la poutargue, même un concours de poutargue le samedi avec un jury de chic de choc et une dégustation de plein de produits et un bal gourmand le vendredi soir. Donc on va se changer, on va danser et déguster.
La poutargue, les fameux œufs de mulet séchés, c'est le caviar séché de Méditerranée, peut-on dire ?
Bah oui, on en a un peu partout, donc on va les déguster aussi.
Merci beaucoup Alessandra, la semaine prochaine dans On va déguster, dimanche prochain, un produit qui vous intéressera car il est très italien, l'amande qu'on va cueillir chez un producteur bio tout près d'Orange, dans le Vaucluse, et qu'on va cuisiner en plateau. Notre libraire gourmande Déborah Dupont et l'un de nos chroniqueurs vins, Jérôme Gagnès, seront en plateau. À dimanche prochain si vous avez encore faim.